du coq à l'âne.
Ok, 3, 2, 1, let's jam.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour, heureux de vous retrouver pour ce numéro 752 du Coq à l'âne en direct du Casino Circus de Briançon avec nos cocaniens Philippe Stockley.
Bonjour.
Salut Philippe, nous avons Yves Honoré qui est là aussi.
Bonjour.
Bonjour, et Jean-Paul Grolier.
Et bonjour.
Et bonjour Jean-Paul, et notre invité Désiré Giraud. Oui, je t'appelle Désiré, Joël, et tu vas comprendre pourquoi tout de suite d'ailleurs avec l'édito de Philippe.
Salut Joël. Bon, avant de commencer, je voudrais quand même préciser qu'il y en a qui se font attendre au Coq à l'âne. Hein. Suivez mon regard. Ça fait quand même 4 ans que nous t'attendons ici sur Alpe 1, dans cette émission qui a la réputation d'être détendue, certes, mais qui se doit aussi d'être pertinente, voire impertinente. Et puis ça tombe bien, puisqu'il y a un mois, c'était le sénateur des Hautes-Alpes, Jean-Michel Arnaud, qui était l'invité de cette prestigieuse émission à Gap. Et aujourd'hui à Briançon, c'est le député de la deuxième circonscription de ces mêmes Hautes-Alpes. Que du beau monde sur la radio des Alpes du Sud, je dirais même the place to be. Effectivement, Joël, nous avons failli t'avoir en 2019.
Il s'en souvient pas.
Tu m'étonnes.
Mais après bon... Jésus-Christ.
D'accord.
Mais bon, ça s'était pas fait pour cause d'emploi du temps surchargé. Ça ne se voit pas parce que c'est de la radio, mais j'ai mis un S à emploi du temps. Parce que bon, je parle du tien, Joël, bien sûr, mais bon, nous aussi, on a nos occupations quand même. Hein. Et le problème, c'est qu'à cette époque, j'avais déjà écrit mon édito. Alors, pas de gâchis, je le recycle, c'est à la mode, je le recase, impudent que je suis. 5 ans plus tard, le voici donc, un petit voyage dans le temps.
Je vais régler l'heure de ta destination. 5 c'est l'heure à laquelle tu es parti. Je te renvoie à la même heure, à la seconde près. Comme si tu n'avais pas quitté ton époque.
Joël, depuis de nombreuses années, je t'ai observé comme un homme politique. Et je dois reconnaître que j'ai plus souvent vu un homme plutôt qu'un politique, en particulier dans le domaine de l'adversité. Un domaine dans lequel, si je peux me permettre une parenthèse toute personnelle, j'ai été très mauvais lors de ma courte carrière politique dans l'étrange vallée de la Guisane. Mais bon, je ne suis pas là pour parler de moi.
C'est sûr.
Mais je rêve un jour d'être l'invité du Coq à l'âne. Mais pour cela, il faudrait que je me remette à la politique locale. Et ça, si j'ai compris une chose à ma vie dissolue, c'est que je ne suis pas fait pour la politique. Ou alors, c'est la politique qui n'est pas faite pour moi. J'ai jamais su dans quel sens prendre cette analyse. Bon, j'arrête de parler de moi. Ce serait malvenu le jour où nous recevons un invité qui a un agenda épais comme l'annuaire téléphonique des Hauts-de-Seine. D'ailleurs, je viens de voir ton agenda papier, Joël, et je pense qu'il ne va pas te faire 2 ans, celui-là. Donc, je voulais parler de comment gérer l'adversité en politique. Dans ce domaine, beaucoup de tes collègues, voire concurrents, déballent leur grossièreté, leur arrogance ou leur mauvaise foi comme mode d'expression. Il y en a même aussi pas mal qui se défilent. Joël, toi, je t'ai toujours connu soft, jamais agressif, jamais haineux, jamais, jamais, beaucoup de jamais, qui semblerait faire de toi un homme trop conciliant pour la politique. Et pourtant, tu y es depuis 30 ans. Maintenant, ça fait 38. Hein. Les aboyeurs arrogants en carrière courte devraient en prendre de la graine. Je ne prends pas cette attaque pour moi-même, puisque même si ma carrière a été très courte, voire éphémère, je n'ai pas eu le temps, ni l'occasion, ni l'envie d'aboyer. Depuis 2002, où tu étais devenu député face à Jean-Yves Dussert, tu battras ensuite Alain Bérou en 2007, Chantal Emeaud en 2012, Arnaud Murgien en 2017, avec un pourcentage de voix toujours en progression, 51 contre Dussert, 55 contre Bérou, 56 contre Emeaud, et contre Arnaud Murgien, 68, excusez du peu. À l'époque, j'écrivais, j'espère pour ceux qui rêvent de prendre ta place que tu ne seras pas candidat en 2022. Sinon, les candidats potentiels pourraient bien se prendre à 75% dans le nez. Eh bien si. Nous sommes en 2024, contre toute attente, à la demande générale, ou peut-être du général. Tu as été candidat en 2022 et tu as dû affronter Capucine Mounal de la France Insoumise et Brillante.
Tiens donc, qui est-ce ?
Une dame très connue dans son immeuble et à qui tu as collé un modeste 56%.
Allez, on fait un petit retour.
D'abord, il faut mettre en marche les circuits temporels. Ce cadran te dit où tu vas, celui-ci où tu te trouves et celui-là te dit d'où tu es parti.
Côté ambiance et gestion de l'adversité, j'ai oublié ta campagne contre Chantal Emeaud, mais je me rappelle très bien celle contre Alain Bérou. Et déjà à cette époque, il y a 12 ans de cela, donc 17 aujourd'hui, ta non-agressivité, je dirais même ton respect de l'adversaire, m'avait étonné. Je me souviens en particulier avoir assisté à votre rencontre imprévue au marché de Briançon. Tout le monde s'attendait à un pugilat verbal et en fait, tout est resté très correct. Enfin, j'imagine que le bouillant Alain Bérou a dû se retenir. Je me souviens aussi, et c'est plus facile, d'un débat avec Arnaud Murgia, où tu regardais ton jeune adversaire avec étonnement, patience, tout en donnant l'impression de soupirer intérieurement. Bon, vivement que ça se termine tout ça. Mais surtout, surtout, ce que n'auront jamais tes concurrents, c'est ton humour. Édouard Philippe évoquait en son temps ton caractère truculent, joyeux, parfois farceur. Pour ma part, je tairai ici quelques blagues entendues ici et là.
Oh non.
Et je pas...
On va lui demander une petite blague, Joël.
Et je ne pense pas que ce serait pas très respectable de le faire, même si ça me démange, franchement. Mais enfin bon. Alors, bienvenue, Joël, au Coq-à-l'âne d'Alpe 1, à Briançon. Ici, pas question d'adversité, juste un peu de sagacité, un peu d'exclusivité aussi, on l'espère. Une petite page de publicité, un soupçon d'excentricité et surtout, surtout, de la convivialité. Je voulais juste, avant d'entamer la discussion avec tout le monde, te demander ce que tu penses de cette phrase. L'homme politique, c'est l'intelligence moins l'orgueil.
Voilà, voilà.
Eh bien, voilà. Alors déjà, je me suis fait appeler Désiré en arrivant. Alors, je vais vous dire, c'était réellement mon surnom. Parce que comme je suis arrivé au bout de 14 ans de mariage, après le mariage de mes parents, et que mes parents rêvaient d'avoir un gosse et que ça, j'ai mis très longtemps, tout le monde voulait que je m'appelle Désiré. Et au moment où ma mère a accouché, elle est tombée sur une brave nonne qui était à l'hôpital de Gap, qui lui a dit « Il faut l'appeler Calixte, c'est le prénom de notre saint évêque. » Et ma mère lui a dit « Il ne s'appellera pas comme ça.
Oui. »
Donc déjà, ça commençait mal. Et comme une famille où j'avais à la fois des juifs et des protestants, ils se sont dit on va quand même lui prendre un prénom qui est potable. Joël, c'est un des petits prophètes, ça devrait le faire. Et je me suis appelé Joël, voilà. Donc ça a commencé comme ça, mais effectivement, on m'appelait également Désiré parce que, ben voilà, j'ai mis un certain temps à arriver. Mais j'aime bien mettre un certain temps à arriver parce que je suis toujours calme, effectivement. Et ça m'a servi dans mon boulot professionnel, comme ça m'a servi dans la vie politique. Alors, quant à ta phrase, je crois que, sans l'orgueil, malheureusement, un homme politique sans l'orgueil, il n'y en a pas beaucoup. J'en comptois. Et puis, plus ça va, plus les jeunes générations me surprennent, d'ailleurs, sur ce plan-là. L'Assemblée nationale, c'est spectaculaire. Je vais vous dire une chose. L'orgueil, il est bien placé lorsqu'on a réalisé des choses et qu'on se dit, hop, c'est bien moi qui l'ai fait, ce truc-là. C'est plutôt sympa, je suis content de moi. Là, c'est du bon orgueil, c'est de l'orgueil bien placé.
Ça fait plaisir,
c'est comme l'orgueil des maires quand on arrive à redresser une commune qui est dans une situation épouvantable comme l'Argentière. Bon, l'orgueil bien placé, c'est d'inaugurer des choses, des centres de formation et de se dire, j'ai fait des trucs et cette commune va revivre. Et là, c'est de l'orgueil bien placé, donc... L'orgueil, il faut simplement l'utiliser à bon escient et éviter d'avoir les chevilles qui enflent trop parce qu'après, d'abord, on ne rentre plus dans les baskets.
Alors Joël, c'est ton deuxième Coq-à-l'âne, puisqu'on en avait fait un ensemble il y a 12 ans.
Oui, je m'en rappelle.
J'ai vérifié la date, c'était le 9 mai.
Tu n'as pas pris une ride.
Tu es bien aimable.
J'ai toujours été très myope, mais...
C'était le 9 mai 2012. Oui, le 9 mai 2012.
Quelle mémoire. Mais en 2019, j'avais une vraie excuse, et ça je m'en souviens très bien. Mais non, mais j'avais une vraie excuse, parce que des fois on se dit, oh, fais chier, je vais pas reprendre la voiture, je vais pas rentrer. Mais là, j'avais une bonne excuse, c'est qu'il y avait un projet de loi de finances rectificative, et on m'avait récupéré, j'étais rapporteur général du budget, voilà, c'est fait comme ça, c'est un petit peu un boulot de chien, mais c'est un boulot de chien qui est passionnant, et entre parenthèses, que j'ai adoré, donc, entre le Coq-à-l'âne et le boulot de chien, j'ai choisi le boulot de chien.
Alors, le Coq-à-l'âne qu'on avait fait ensemble, c'était à Gap à l'époque, là, aujourd'hui, on est à Briançon.
C'est très bien.
Oui, et on est dans un casino, et je crois savoir que... C'était ton premier job, casino?
J'ai beaucoup travaillé pour TRACFIN, oui. Puisque j'ai été le directeur des opérations spéciales de TRACFIN, qui est le service central de répression du trafic financier. Donc, effectivement, je me suis occupé du contrôle des comptes des casinos. Il ne faut pas s'étonner si dans 5 minutes, vous avez des bracelets. Si je fais un article 40 du Code de procédure pénale pour blanchiment, ou pire, blanchiment de fraude fiscale, puisque c'est moi l'inventeur de la notion de blanchiment de fraude fiscale, voilà. Vous savez, il y a une certaine ministre qui est tombée là-dessus qui s'appelle Cailleux. Elle avait dit des horreurs sur les homosexuels et ensuite elle est tombée pour blanchiment de fraude fiscale. C'est ballot.
Exact. Ah oui,
c'est ballot. Il y a des gens qui ont des carrières. Il faut toujours déclarer, même ses backrooms. C'est ce qu'elle n'avait pas su faire.
Je redonne la parole à Philippe.
Oui, j'ai 5 questions.
Non, tu as des questions.
5
non. T'es pas tout seul hein, ici. Hein. On est quand même, on a, nous aussi, on a des questions. Alors, on commence.
Alors, 13 avril 1986.
Oui.
Élu conseiller municipal à l'Argentière, l'ABC. Oui. Quel souvenir de cette période ?
Bah, c'est une période qui est compliquée pour moi, parce qu'en fait, c'est consécutif au décès de mon père. Et si je suis rentré en politique vraiment et en politique locale, c'est parce que bah, mon père est clairement mort de ce qui s'est passé à l'Argentière. Donc la fermeture de l'usine Péchiné, un premier AVC, un deuxième AVC. Alors bon, il avait des problèmes de santé par ailleurs, mais donc si je suis rentré en politique, c'est pour reconstruire quelque chose qu'il n'avait pas eu le temps de faire. Et je dirais, c'est un peu la mémoire du père. Donc voilà, donc pour moi, c'était un moment d'émotion dont je me souviens bien d'ailleurs. D'autant plus émouvant que, comme ses adjoints se battaient pour prendre sa succession, on se retrouvait dans une situation où j'ai refusé. À l'époque, on pouvait encore se présenter dans des communes comme l'Argentière en étant candidat individuel. Je me suis présenté comme candidat individuel pour éviter toute confusion ou toute préférence vis-à-vis du choix qui aurait été celui de mon père, justement. Et voilà, c'était un moment d'émotion, aussi un moment de solitude parce que j'étais tout seul, voilà. J'étais tout seul en arrivant dans un conseil municipal qui, excusez-moi du peu, mais partait un peu en vrille pour pas dire quelque chose, d'un peu plus vulgaire.
Et 38 ans plus tard, alors être ministre ou pas, 2 mois, secrétaire d'État, 2 ans, alors là, quels souvenirs, des regrets ?
Des regrets, non, parce que d'abord c'était avec Jean Castex, pour être très clair, avec qui je m'entends je m'entends toujours très très bien, puisqu'on continue à se faire des petits commentaires SMS, à se voir, à manger ensemble. Il a même fait la gentillesse de venir inaugurer le Pas de l'Ours alors qu'il n'était plus Premier ministre dans le Kera. Et c'est un bon moment parce que c'est vrai que je me suis trouvé d'abord secrétaire d'État à un moment où il y avait 181 mesures de l'agenda rural à mettre en œuvre. Donc j'avais là aussi un boulot de dingue pour que la ruralité sorte d'un certain marasme. Pour mémoire simplement, c'était les Maisons France Service, c'était des choses importantes comme les programmes comme Petite Ville de Demain. Qui servent à tous les gros chefs-lieux de canton et gros bourgs-centres du coin. C'était surtout, et ce qui m'a le plus marqué sans doute comme secrétaire d'État, c'est d'avoir eu la confiance de Jean Castex pour mener le programme Avenir Montagne. Parce qu'après le Covid, personne ne savait si les stations de ski allaient survivre, si la montagne allait survivre. Et le fait qu'il m'ait fait confiance, qu'on ait annoncé ce programme ensemble et qu'on ait pu ensuite, j'allais dire, mettre beaucoup d'argent sur la table, non seulement du fric pour des projets qui n'avaient pas pu voir le jour, mais également de l'ingénierie, c'est-à-dire que pour des gens qui ne savent pas comment faire devant l'évolution du climat, on leur propose de l'ingénierie, c'est-à-dire pour que des gens réfléchissent avec eux sur quel avenir donner à leur station. Et bien ça, c'est un très très bon souvenir. Et ministre de plein exercice pendant 3 mois, c'est court. mais il n'empêche que c'était quand même sympa parce que là, mon deuxième souvenir, c'est qu'avec Gérald Darmanin, on a mis en place la politique d'accueil des Ukrainiens, des réfugiés ukrainiennes. Et on était les deux ministres en charge du dossier. Et donc, il a fallu gérer cela avec les collectivités locales, avec, par exemple, se poser des questions de l'aide sociale à l'enfance pour les gamins qui arrivaient, avec les conseils départementaux. Enfin bon, tout ça a pris beaucoup de temps et je passais mon temps dans une cellule Ukraine à l'hôtel de Beauvau, c'est-à-dire au ministère de l'Intérieur. Et je pense qu'on a fait quand même du bon job sur l'accueil des réfugiés ukrainiens à l'époque.
Démarrer comme conseiller municipal en fait, hein, puisque ouais. Tu as démarré comme ça, et arriver ministre, c'est un aboutissement. C'est un petit peu comme Gabriel Attal. Il a commencé comme conseiller municipal, et bon, lui, il a fait un peu plus, hein, puisqu'il est premier ministre. Mais est-ce que c'est un aboutissement ? Ça veut dire qu'en fait, tu as atteint la limite, parce que
je ne suis pas candidat à la présidence de la République, si voilà, c'est le scoop que tu attendais.
C'est ce que
finalement, je me demande. Mais. Non, mais oui, c'est un aboutissement. En plus, c'est un aboutissement. Pour être clair, dans ma vie et dans ma carrière, vous avez noté que je suis toujours resté à peu près le même.
Ah,
j'ai jamais changé depuis l'âge de 15 ans de toute façon, avec mes blagues à deux balles qui partent d'un seul coup, je sais pas pourquoi, mais bon. Alors ça agaçait beaucoup certains enseignants, d'autres ça les amusait, mais la majorité ça les agaçait quand même énormément. Et puis bon, le reste j'ai rien sollicité, c'est venu normalement et naturellement. J'ai pas demandé à être ministre, je l'ai été. Je n'ai pas demandé à être rapporteur général du budget, et même si j'en rêvais, et ça j'en rêvais réellement, parce que c'est une fonction que j'adorais, parce qu'on influait plus sur le devenir de la politique encore qu'en tant que ministre. En tant que ministre, vous avez un secteur qui est étroit. Quand vous êtes rapporteur général du budget, vous êtes le ministre bis du budget. Donc voilà, je me rappelle à l'époque, j'avais deux objectifs. Un, faire passer des choses auxquelles je croyais. Donc je faisais passer entre 1500 et 2000 amendements par budget. Mes successeurs, ça a été 400, et puis maintenant, c'est plus du tout, puisqu'il y a le 49-3, donc tout va bien. Et donc, ça permettait d'influer, mais avec un principe, c'est que je rendais toujours un solde des comptes meilleur à la fin du budget qu'au début. Parce que je suis un matheux un peu autiste, et que les matheux autistes, ça sait compter, et ça n'aime pas quand les dépenses excèdent beaucoup trop les recettes.
Et le fait, Joël, de ne pas avoir été reconduit, là, tu t'es dit, c'est ma personnalité qui est un petit peu trop décalée par rapport à ce que peut être un ministre. Tu le dis toi-même.
Oui, bah, je suis
depuis l'âge de 15 ans, t'as pas changé.
Non, mais
t'aimes bien plaisanter.
Bien sûr. Vous comprenez bien que ma personnalité et celle d'Elisabeth Borne sont différentes.
On va en parler.
Voilà.
Un peu électron libre.
D'ailleurs, vous avez remarqué quel est le cadeau que je lui ai fait, puisque maintenant elle siège à l'Assemblée nationale juste à côté de moi. Oh. Les ministres de plein exercice sont au même rang. Et donc, elle est à ma gauche. Et quand elle est arrivée, pour la détendre, parce qu'il faut de temps en temps détendre les gens.
Tu lui as offert quoi ?
Je lui ai offert un panneau interdit de vapoter.
Ah ben
et l'AFP, en plus, a pris en photo au moment où je lui offrais le panneau. Voilà.
Est-ce qu'elle l'a bien pris ?
Elle a été obligée de bien le prendre. Voilà. Mais elle s'est rattrapée en commission tout de suite après, parce qu'elle n'arrêtait pas de retourner son espèce d'objet là. En plus, je déteste ça pour deux raisons. La première, c'est que j'aime pas l'odeur de ce truc-là. Et la deuxième, parce que je trouve ça très impoli de vapoter dans la tronche des gens. Voilà, c'est tout. Si, au-delà de l'interdiction ou de la pas-interdiction d'ailleurs. Et donc, elle s'est rattrapée en commission dans la foulée, parce qu'en commission, elle les a enfumées complètement. Mais moi, au moins, je suis tranquille, je suis préservé, je ressors le panneau en cas d'urgence.
Alors justement, on est à l'Assemblée nationale. Le vote à l'Assemblée, alors, suivre son opinion ou suivre la ligne ? Parce que le récent vote sur la loi immigration, où tu t'es abstenu, on peut se permettre ça quand même.
Bah écoute, moi, de façon très claire, c'est... Il faut dans la vie être loyal ou s'en aller. Bon, la loyauté pour moi, c'était de ne pas voter contre, pour être clair.
Oui.
Même si ça m'a chatouillé, mais de s'abstenir, bon, parce que c'est pas un acte de courage absolu, c'est simplement un acte pour montrer que on n'est pas d'accord sur deux choses. Sur le fond du texte tel qu'il est arrivé à la fin après la commission mixte paritaire, mais aussi de manière plus, j'allais dire, parlementaire, sur la façon dont ça s'est fait. Je le rappelle quand même, en fait. Quand on vous dit, vous votez quand même, parce que ça n'a pas d'importance les mesures qui ne vous plaisent pas, puisqu'elles vont être nettoyées par le Conseil constitutionnel. Enfin merde, on est parlementaire, on vote pour un truc, on ne va pas dire le troisième tour se joue ailleurs. Sans ça, ce n'est pas la peine qu'il y ait des parlementaires. Quoi. Et je pense que ce genre d'attitude dénature le débat parlementaire et en plus jette l'opprobre sur les parlementaires au motif que, bah, regardez, ils servent à que dalle, puisque de toute façon, c'est le Conseil constitutionnel qui nettoie. Bon, d'ailleurs, Laurent Fabius a dit des choses assez justes là-dessus en disant qu'il n'était pas là pour faire la troisième chambre. Hein. Voilà. Donc ça, c'est ça qui m'a le plus déplu, parce que sur le fond du texte initial, j'étais d'accord. C'est-à-dire être plus ferme vis-à-vis des gens qui ne sont pas là pour s'intégrer sur le territoire, en étant, j'allais dire, très cool sur les gens qui viennent pour travailler sur le territoire. Moi c'est l'équilibre. Enfin là, c'est le fameux en même temps du président de la République, ouais. qui me va bien, quoi. Mmh. Le Sénat a dénaturé le machin. Personne n'a eu le courage politique de dire en commission mixte paritaire, non. Je me suis dit que le courage politique, c'était de ne pas le voter. Voilà.
Mmh. Tu voulais poser une question sur un autre vote par rapport à la fin de vie.
Oui. En fait, je pense qu'il n'est pas encore voté. De toute façon, c'est
ah non,
pas,
non.
Ah, on est d'accord.
Non, c'est une annonce du président.
C'est une annonce du président. Oui. Alors moi j'avais écouté un commentaire qui était intéressant, c'était chaque président veut marquer son époque. Il y a eu Mitterrand avec l'architecture, le Louvre, les grands bâtiments. Il y a eu la loi sur le mariage pour tous, il y a eu des choses comme ça. Et certains commentateurs disaient finalement, quand un président s'en va, on retient plus des choses marquantes comme celle-là, plus que des problèmes de finance ou d'international. Donc est-ce que c'est aussi quelque chose qui lui tient à cœur, toi qui fréquentes Macron ?
Alors, le président Macron est plus compliqué que ses prédécesseurs sur ces questions-là. C'est-à-dire qu'il est, c'est un cerveau plus complexe que beaucoup d'autres, donc il ne réagit pas forcément en disant « je vais laisser une trace dans l'histoire » ou autre. Bon, sur le sujet particulier du droit de mourir dans la dignité, il a beaucoup hésité.
On lui a reproché d'ailleurs.
Je lui ai dit clairement, parce que moi je suis resté membre du Parti Radical. Hein. Je suis membre de Renaissance, du groupe politique, mais je ne suis pas membre du parti politique Renaissance. Parce qu'à l'époque, on nous a demandé, il y a deux ans, là, donc, de choisir. Moi, je suis resté assez fidèle à ce que je suis depuis le début. Quelqu'un pour qui, en même temps, ça parle, puisque au Parti Radical, le président était radical valoisien et le premier vice-président, l'espace moi, je suis un radical de gauche. Voilà, et ce genre d'espace politique me convient parce que je déteste la guerre. Voilà. J'étais à la guerre, donc je suis servi en ce moment à l'Assemblée nationale, je dois dire, parce que alors là, vraiment, c'est le sommet de l'horreur, j'allais dire. Vous avez des gens dont feu maman qui ne mâchait pas ses mots, elle non plus, quand elle était principale de collège, aurait dit il y a un tas de gens qui ont été nourris, mais pas élevés.
Oui, c'est ça.
Voilà ce qu'elle disait en général aux parents d'élèves qui venaient la voir quand les gosses faisaient une ânerie. Elle le reprochait moins aux gosses qu'aux parents. Ce qui, à mon avis, est une bonne idée. Donc, je pense que le président de la République, dans cette affaire-là, en lançant le Conseil national qui a permis justement, avec les citoyens, de voir que c'était un sujet important pour les citoyens, s'est dit avant toute chose, il faut le faire parce que les gens ne comprennent pas que le dernier étage de la fusée ne soit pas mis en place. Moi, je me rappelle à l'époque de la loi Claeys-Leonetti, j'étais furibard, enfin, j'étais au groupe radical, quand j'ai vu, parce qu'il y avait eu des influences religieuses.
Il y
en a encore maintenant et ça continue. Moi, j'estime que la vie appartient, la vie et la mort d'ailleurs appartiennent au citoyen lui-même, à l'individu en tant que tel. Je suis libéral sur le plan économique, mais je suis libéral social également sur le plan des idées personnelles. Et à partir de là, ce n'est pas contre les soins palliatifs, comme j'ai entendu d'ailleurs certains dire. Au contraire, il y a un nombre de personnes qui, à l'issue du dialogue sur les soins palliatifs, décident d'en finir. Regardez le cas de Jean-Claude Gas, qu'on a bien vu dans le département des Hautes-Alpes. Moi, je ne peux pas considérer que ce soit quelqu'un d'autre, une entité suprême, Dieu ou je ne sais qui, de décider à la place des gens. Je pense que, les gens doivent décider, et c'est effectivement une infime partie de la population qui est concernée. Hein. Ce qui veut dire qu'il faut que les soins palliatifs aient effectivement beaucoup de fric, parce que c'est un système qui correspond à la grande majorité des gens. Que certains également disent finalement je préfère les soins palliatifs au suicide assisté parce qu'ils ont rencontré quelque chose qui les apaise, et tant mieux. Mais il y a le dernier étage de la fusée qui est la décision personnelle d'un individu qui doit être respectée. Et là, je pense que le président de la République a fait le bon choix, mais je veillerai quand même, parce que moi j'aime bien me prononcer sur les textes après les avoir lus. Parce que je veux dire, je cite toujours le cas de Jean-Claude Gas, parce que c'est un cas intéressant. Jean-Claude Gas n'était pas susceptible de mourir dans les heures, les jours, les mois, les années qui viennent. Il était dans un état qui lui était devenu insupportable en termes de souffrance psychologique et de souffrance physique. Donc je tiens à ce que dans le texte, ce soit également noté que ce n'est pas seulement pour les gens dont les jours sont comptés, mais pour les gens dont les jours deviennent insupportables pour des raisons de souffrance physique ou psychologique. Donc, et qu'il faut protéger également les toubibs. les toubibs, les soignants, les aides-soignants, enfin tout le corps médical, de tout recours sur ce genre de choses. Et je pense qu'on va trouver des équilibres. Mais je ne sais pas si le président le conçoit comme vraiment le marqueur de société de son mandat. Je crois que le marqueur de société, c'était plutôt sur le premier mandat, sur le fait de libérer l'économie. Enfin, moi, je l'ai conçu comme tel. Et comme rapporteur général du budget, c'est comme ça que je l'ai conçu, libérer l'économie, c'est-à-dire baisser la pression fiscale dans un pays qui est un fou furieux sur ce plan-là. Moi, je trouvais que c'était plus ça, mais vous avez sans doute raison. On ne se rappelle de rien d'autre sur le mandat de François Hollande que le mariage gay.
Mitterrand de la pyramide.
Exactement, Mitterrand de la pyramide, oui. Eh bien, voilà. Eh bien, ce sera ma pyramide. Mais finalement, il a choisi Jarnac pour finir ses jours.
Pour terminer ses jours, voilà. Jarnac, alors, ça ne s'invente pas.
Juste pour prolonger ce que tu disais sur la fin de vie, moi j'ai ma maman qui a Alzheimer. Il y a énormément de personnes qui ont des parents Alzheimer. Mm. Et quand tu disais que les gens sont capables de décider de leur sort, moi je me souviens très bien de ma maman, et comme ma belle-mère avait décidé en disant: si jamais je suis dans un état comme celui-là, c'était pas achevez-moi, parce que c'était pas
correct. C'était aidez-moi.
C'était aidez-moi. Mmh. Aidez-moi. Et bien en sûr. Fait, là, le problème, c'est qu'on aide plus personne, puisque un médecin a dit, de toute façon, elle n'est pas capable de décider quoi que ce soit. Donc,
c'est le deuxième sujet après celui de. Voilà. Le premier sujet que j'ai cité tout à l'heure, qui est le fait de ne pas être en danger de mort imminente.
Voilà.
C'est le deuxième sujet qui va être débattu au Parlement. C'est pour ça que je vais voir le contenu du texte. Sur la volonté exprimée ex ante, de quelle manière, par des personnes. Voilà, c'est qui est une. Qui est quelque chose de très 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 compliqué, mais enfin, faut être clair, qu'on résolue quand même beaucoup de. Enfin, on n'assassine pas les gens en Belgique, on n'assassine pas les gens en Suisse, enfin, ces sujets.
Au Canada aussi.
Au Canada, enfin, je citais les pays les plus proches de nous. Donc je pense qu'on doit trouver des moyens juridiques de bien verrouiller les choses. C'est d'ailleurs, moi j'ai regardé un petit peu je regarde toujours les réactions confessionnelles parce que ça m'intéresse. Outre l'Église catholique qui est conforme, qui a même protesté officiellement contre le fait que l'interruption volontaire de grossesse soit dans la Constitution. Enfin, j'avoue que la protestation officielle contre ça, le droit des femmes à disposer de leur corps, ça pose encore un problème dans ce pays. Je ne peux pas comprendre. Et là, j'ai écouté des réactions plus mesurées de notamment de l'Église réformée qui font que dès lors que c'est encadré juridiquement et qu'il n'y a pas de dérapage possible, voilà.
Ils sont pas contre.
Voilà, personne n'est contre une volonté individuelle. Mais bon, il va falloir que ces sujets. Vous savez, en France, on évolue moins vite sur les sujets de société comme cela que dans d'autres pays. Regarder le sujet du mariage gay. Enfin, c'est quand on voit encore les réactions qu'il y a à l'heure actuelle, on se pose vraiment des questions, quoi. C'est sur ce pays qui est particulier.